Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. En 1888, Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, il est l'auteur de Germinal, du Bonheur des Dames, de La Curée et de l'Assommoir, a 48 ans. À la ville, il est riche et célèbre, et dans l'intimité, il mène une vie de couple tranquille, celle d'un vieux ménage sans histoire avec son épouse Alexandrine. Jusqu'au jour où une jeune femme, une certaine Jeanne Rosereau, entre dans sa vie. Elle va lui donner deux enfants. Mais Alexandrine finit par comprendre qu'elle a été trompée. Pour Émile Zola, l'heure des choix a sonné. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Seconde partie. Coco, faisant et bonne nuit. Quand est publié le Docteur Pascal, le dernier ouvrage de la série des Rougon-Macquart qui s'inspire de l'histoire entre Émile Zola et sa jeune maîtresse Jeanne Rosereau, Alexandrine entre dans une telle fureur qu'elle décide de quitter Zola séance tenante. Bon, on peut la comprendre, mais si Zola ne veut pas renoncer à sa vie de famille, il réalise qu'il ne peut pas, qu'il ne veut pas non plus vivre sans son épouse. Il est bien temps de s'en rendre compte. Alors, pour qu'elle renonce au divorce, pour éviter que le scandale ne devienne public, il accepte de vivre à nouveau en résidence surveillée. En juillet 1894, il écrit
« Je ne suis pas heureux. Ce partage, cette vie double que je suis forcé de vivre, finissent par me désespérer. J'avais fait le rêve de rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je vois bien que cela est impossible. »
Pourtant, avec le temps, Alexandrine va se faire à l'idée de ne plus être la seule femme dans la vie d'Émile. Après tout, elle reste Madame Zola. C'est elle qui partage la gloire de son mari, alors que Jeanne et les enfants restent dans l'ombre. Les honneurs, c'est elle. Les enfants, c'est Jeanne. Voilà un modus vivendi acceptable. Émile Zola, lui, se partage entre ses deux foyers. Dans un premier temps, quand Jeanne et les petits sont à Cheverchemont, la maison qu'Émile a achetée pour eux non loin de Médan dans les Yvelines, là où il a lui-même une propriété, les enfants voient peu leur père qui doit se contenter de les apercevoir discrètement en utilisant des jumelles. Imaginez! Mais à partir de 1895, et avec l'accord d'Alexandrine, il vient prendre tous les jours le thé chez ses enfants. Il n'a plus besoin de se cacher. Dans ses lettres, Alexandrine demande même maintenant régulièrement des nouvelles des deux enfants, Jacques, surnommé Coco, et Denise, surnommée Poulet. Sans doute une forme de culpabilité a-t-elle aidé Alexandrine, qui elle-même n'a jamais donné d'enfant à Émile Zola, à accepter cette situation. Toujours est-il que, petit à petit, ses enfants, Coco et Poulet, lui deviennent chers. Elle leur apporte des cadeaux de ses voyages, entre dans leur vie et gagne leur affection. Les enfants l'appellent bientôt « Bonne Mie » et ils la considèrent un peu comme une vieille tante ou une marraine.
Ce faisant, Alexandrine reconquiert sa place auprès de Zola mieux que si elle s'était enfermée dans le refus ou la dépression. Compromis, tolérance, acceptation lui permettent de respecter la règle du jeu à trois dont chacun est à la fois le gagnant et le perdant.
Écrit Evelyne Bloch-Dano. Si la situation se normalise plus ou moins, jamais Émile Zola ne vivra vraiment avec ses enfants, à l'exception de 2 mois en Angleterre, durant l'exil auquel l'ont condamné ses prises de position courageuses dans l'affaire Dreyfus. Pour son entourage, ce sont des années vraiment difficiles. Le fameux article « J'accuse », publié dans l'Aurore le 13 janvier 1898, article dans lequel il dénonce la machination dont a été victime le capitaine Dreyfus, lui attire une haine inimaginable. Il reçoit des lettres de menaces et d'insultes par centaines. On manifeste contre lui en brandissant des pancartes « Zola à la potence ». Ce qui fera dire à Clémenceau, sortant du procès Zola en février 1898, alors que ce dernier vient d'être condamné.
Si Zola avait été acquitté, pas un de nous n'en serait sorti vivant.
Émile Zola est condamné pour diffamation. Il est radié de l'ordre de la Légion d'honneur. Et il doit donc s'exiler en Angleterre, où il restera jusqu'en juin 1899. Trois ans plus tard, le 29 septembre 1902, au matin, alors que les Zola étaient revenus la veille de leur propriété de Médan, tous les deux sont retrouvés inanimés dans leur chambre. Durant la nuit, ils ont été intoxiqués à l'oxyde de carbone. On tente désespérément de réanimer Zola, dont le corps est encore chaud quand les médecins arrivent sur place. Peine perdue. Émile Zola est mort. Il avait 62 ans. Par quel miracle Alexandrine a-t-elle survécu? Eh bien parce que contrairement à son mari tombé par terre après avoir tenté d'ouvrir une fenêtre, elle est restée inerte dans son lit et de ce fait a inhalé des concentrations de gaz toxiques bien inférieures. Ironie du sort, dans plusieurs de ses livres, Zola décrit des morts par étouffement. Depuis qu'enfant, il avait été victime d'une fièvre typhoïde qui s'était portée sur la gorge. Il avait connu cette sensation d'étouffement et en avait la hantise. Sa propre mort est semblable à celle de l'un de ses personnages, et pas n'importe lequel, le docteur Pascal. L'enquête conclura que c'est la cheminée qui était défaillante. Mais sachez que cette affaire connaîtra un rebondissement spectaculaire des années plus tard, puisqu'un fumiste du nom de Henri Buron-Fosse, je dis un fumiste mais on parlerait plus volontiers d'un ramoneur de nos jours, eh bien cet homme qui aurait appartenu au milieu anti-Dreyfusard les plus extrémistes, s'est accusé sur son lit de mort d'avoir bouché la cheminée des Zola. Ce Buron-Fosse avait de fait beaucoup de relations dans les milieux d'extrême droite. Il connaissait notamment Marcel Haber, le bras droit de Paul Déroulède, et Jules Guérin, le fondateur de la Ligue antisémite. Mais ceci est une autre histoire. Après sa mort, la dépouille d'Émile Zola est embaumée car Alexandrine est toujours hospitalisée. Il faut attendre qu'elle se remette avant d'envisager des funérailles. Zola disparu, Alexandrine aurait pu s'approprier ce grand mort. Mais elle n'en fait rien. Elle fait immédiatement prévenir Jeanne et ses enfants. Au moment de fermer le cercueil, alors que l'un de ses proches lui demande si elle souhaite que l'on ajoute une photo de Coco et Poulet, Alexandrine demande que l'on y ajoute aussi une photo de leur mère. Les obsèques d'Émile Zola ont lieu le 5 octobre. Une foule considérable s'est massée pour rendre un dernier hommage à l'écrivain. Venus de Denain, dans le Nord, des mineurs accompagnent le convoi en scandant d'une voix sourde « Germinal ». Comme une revendication, une menace et un hommage. Ce jour-là, parmi les personnes présentes dans la foule, il y a aussi Alfred Dreyfus. Anatole France, lui, prononce à propos d'Émile Zola cette magnifique phrase qui entrera dans l'histoire.
« Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. »
Alexandrine, elle, n'aura pas le courage de se montrer à cette cérémonie. Pas davantage Jeanne et ses enfants d'ailleurs, mais pour une toute autre raison évidemment. Il reste la famille cachée du grand écrivain. Et plus que jamais, ils doivent rester dans l'ombre. Pourtant, ils sont bien présents ce jour-là. Ils sont juste perdus dans la foule, anonymes. Pour Denise, qui a 13 ans à l'époque, ce sera un moment très pénible qu'elle ne pourra jamais oublier. Revenons à Alexandrine. Quand Émile Zola meurt, elle a encore de belles années devant elle. Elle vivra d'ailleurs encore 23 ans. Va-t-elle faire le choix de couper les ponts avec sa rivale, Jeanne? Tout au contraire, elle va la prendre sous son aile et leurs liens vont même se resserrer. Une troisième famille va se former, l'épouse, la maîtresse et les enfants. Moins de 2 mois après la mort d'Émile Zola, elle invite Jeanne et les enfants à venir déjeuner chez elle. Par la suite, Jeanne et elle correspondront beaucoup. On a conservé 90 de leurs lettres échangées entre 1903 et 1913. Ces lettres sont pleines de « chère madame », mais on s'y embrasse affectueusement. À chaque fois qu'est organisée une cérémonie en hommage à Zola, Alexandrine y convie Jeanne. Sur le plan matériel, comme Zola n'avait pris aucune disposition pour son second foyer, Alexandrine aurait parfaitement pu laisser tomber Jeanne et ses enfants. Au lieu de cela, elle leur verse une rente tous les 3 mois. Du vivant d'Émile, elle et lui avaient toujours dépensé sans compter, mais avec l'affaire Dreyfus, ils avaient soudain dû faire face à de gros frais de justice et à la mévente des livres d'Émile. Certes, Alexandrine a toujours des revenus confortables, mais c'est loin d'être la richesse, et déjà, mais ses enfants constituent pour elle un réel sacrifice. Elle devra se séparer d'une partie de la collection d'œuvres d'art de Zola. Mais quand Jacques sera atteint d'une tuberculose osseuse, les deux femmes se soutiendront mutuellement. Cette épreuve fera d'elles des amies, liées à la fois par leur amour pour un même homme, mais aussi par leur amour partagé pour les enfants. D'ailleurs, quand Alexandrine parle dans ses lettres de Denise et Jacques, elle écrit « nos enfants ». Et au moment du mariage de Denise, le faire-part annonce « Madame Émile Zola et Madame Rosereau ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur pupille et fille, Mademoiselle Émile Zola ». Comme le prénom de Denise n'est pas mentionné, on a l'impression que c'est Alexandrine qui est sa mère et non Jeanne. Ah, si seulement Zola avait pu voir ça. Finalement, dans toute cette histoire, le vrai drame d'Alexandrine Zola, ce n'était pas seulement de ne pas avoir eu d'enfant avec Émile Zola. C'est aussi d'avoir eu dans sa jeunesse une fille qu'elle avait dû abandonner à l'assistance publique parce qu'à l'époque, les filles-mères étaient mises au ban de la société. Elle avait voulu échapper à ce destin et rencontra Zola à ce moment-là. Bien des années plus tard, elle tentera de savoir ce qu'était devenu l'enfant en question. Mais elle apprendra qu'il était mort quelques semaines après sa naissance. Sa fille aurait-elle survécu si elle s'était occupée d'elle? Cet abandon sera la blessure qu'Alexandrine portera toute sa vie. Elle sera rongée par le remords, par ce sentiment de culpabilité qui ne la quittera jamais et qu'elle somatisera par des malaises récurrents. Voilà sans doute pourquoi, après la rage, la jalousie, le sentiment d'injustice, elle en vint finalement à considérer les enfants naturels de Zola comme les siens. Quelle noblesse de cœur et quelle intelligence de la part de cette femme. Car enfin, aurait-elle mieux fait de se draper dans sa dignité de veuve, de mépriser Jeanne Rosereau qu'elle dominait par sa position sociale et son intelligence, et de passer les dernières années de sa vie seule, confite en dévotion dans la mémoire d'un cher disparu qui n'aurait appartenu qu'à elle? Au lieu de cela, Alexandrine Zola a eu l'intelligence de pardonner et de tendre la main à Jeanne, grâce à quoi elle vécut entourée d'affection. En 1906, c'est elle qui lance la procédure auprès du Conseil d'État pour que Denise et Jacques puissent prendre le nom de Zola. En 1907, un décret officiel les y autorise enfin. L'année suivante, Alexandrine et Jeanne assistent ensemble à l'entrée de Zola au Panthéon. Avant sa mort à 47 ans, le 22 mai 1914, des suites d'une opération bénigne, Jeanne aura eu la joie d'être deux fois grand-mère de deux petites filles, Aline et Violaine, les filles de Denise. Elle est enterrée dans le petit cimetière de son village natal de Côte d'Or, Rouvres-sous-Meilly. Dans la tombe, on sait qu'elle porte
« le premier bijou que l'écrivain lui avait offert, un collier de 7 perles »,
écrit Jérôme Garcin. Malgré leur différence d'âge, vous l'aurez donc compris, c'est Alexandrine qui survécut à Jeanne. C'est donc elle qui devient une seconde mère pour les enfants Zola. Et elle-même disparaît d'une congestion cérébrale à l'âge de 86 ans le 26 avril 1925. Elle lègue ses biens pour moitié à Denise et Jacques et pour moitié à l'assistance publique. Au fait, sachez que dans son testament, elle fait en sorte que ce soit eux qui héritent des droits d'auteur de leur père. Et elle ajoute, comme une sorte de revanche posthume sur son cher mari, qui dans toute cette histoire lui en avait quand même fait voir de toutes les couleurs, que Denise et Jacques se souviennent qu'ils sont Zola par moi, non par leur père. Et toc. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt !